Et vous écoutez France Culture. Un lieu étrange où le primitif, l'archaïque et le futur possible sont réunis. Paul Valéry. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui, 12 ans après la parution de leur somme encyclopédique consacrée aux fictions de Terre Creuse, est heureux de recevoir Guy Coste et Joseph Alterac pour une performance encore plus sidérante et toujours aussi sidérale, la publication chez Belles Lettres Ancrage de rétrofiction, dite aussi encyclopédie de la conjecture rationnelle francophone, une météore sous coffret accusant 5,3 kilos et près de 2300 pages que l'on est ravi de voir frôler notre antenne. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comme on dit toujours, un mauvais genre, c'est du lourd. Jamais cette réputation n'aurait été à ce point un peu usurpée qu'avec l'ouvrage dont nous allons parler ce soir. Je répète, il pèse 5000 kilos, non pas tout à fait, 5,3 kilos et il fait 2300 pages. Et c'est donc cette encyclopédie rétrofiction qui paraît chez Belles Lettres. Les auteurs sont avec nous. Bonsoir Guy Coste.
Bonsoir François.
Guy Coste, dernier passage de la comète Coste et Alterac, c'était en 2006 pour Terre Creuse.
Exact.
C'était déjà un gros livre.
Oui, ben on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire moins déjà. Donc on a presque triplé le poids. Et le nombre de pages, oui, largement, plus l'index.
Voilà, plus les trois index, parce qu'il faut dire
trois
que
index, ou un index composé de trois tableaux.
Voilà. Bonsoir Joseph Alterac.
Bonsoir.
Alors avec les Terres Creuses, on était quand même déjà dans une sorte d'érudition, je dirais abyssale, le mot est le juste. Mais là, on est dans une autre forme d'enquête, puisque vous brassez à la fois les supports. Vous êtes dans on reste dans le milieu francophone, mais on est toutes les formes d'expression.
Oui, les Terres Creuses étaient internationales. Hein. On s'était vraiment intéressé au monde souterrain. Aux mythes, aux histoires autour des grottes, etc., de manière internationale. Là, on a décidé de se recentrer sur l'univers francophone. Et pour tout dire, notre ouvrage est quelque part une émanation de la célèbre encyclopédie de l'utopie, des voyages extraordinaires et de la science-fiction de Pierre Versin. Hein. C'est à lui que nous reprenons d'ailleurs
l'expression
conjecture romanesque.
On va parler du Versin et du concept de conjecture romanesque. En tout cas, grâce à vous, Paul Valéry, qu'on salue, vient de faire son entrée à Mauvais Genre, puisque le vers ou la phrase que j'ai citée figure dans cette encyclopédie. À l'entrée, Paul Valéry, car il y a une entrée. Paul Valéry, c'est dire l'exhaustivité totale de cet ouvrage. Vous serez avec messieurs Rivera. Comment va-t-il ?
Bonsoir François.
Alors, il est venu avec le tome 1 seulement.
Oui, j'ai pas eu le courage d'apporter les deux tomes, mais c'est une pure merveille. Je suis ravi de pouvoir en parler.
Très bien, on va se promener dans le dédale. Monsieur Dionnet, qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Ah voilà, il écrivait. Monsieur Dionnet, bonsoir. Alors vous, c'est pareil, vous avez été fasciné.
Moi, j'ai pris qu'un tome également parce que ne suis pas culturiste.
J'ai pris le tome 2, donc.
Je ne suis pas culturiste. Et si on prend les deux. Les haltères ne sont plus nécessaires.
Alors depuis qu'il sait qu'il doit venir à cette émission, Monsieur Dionnet n'a qu'une obsession, c'est vous mettre en faute et trouver la faille, c'est-à-dire l'entrée qui ne figure pas dans Rétrofiction. Y est-il arrivé ? La solution à la fin de l'émission. Le suspense sera absolument intense. Mais pour l'heure, bien évidemment, nous donnons la parole à Céline Duchesnay. Comment va-t-elle ?
Bonsoir, je vais très très bien. Je vous remercie.
Très bien. Et avec une entrée ?
Eh bien, je vais vous parler ce soir de Nadia Barrientos.
Je suis une magicienne au sens plein. C'est un mot qu'on a un peu oublié ou qu'on a un peu aussi neutralisé dans notre culture et que je réinvestis et que j'aimerais effectivement, dont j'aimerais m'expliquer. Hein. Je ne suis pas Merlin l'Enchanteur ou je ne suis pas Circé, bien sûr. Je suis magicienne au sens où j'ouvre dans l'espace et entre les gens des étincelles propices à une transmutation du désir et de l'acte, du geste et de la pensée. En tout cas, quelque chose qui ouvre une liberté d'imaginer. Et ouvrant une liberté d'imaginer, bien évidemment, une liberté d'exister. Je suis une voyante et je suis un voyou. Il y a une phrase d'un alchimiste que j'aime beaucoup qui dit « les voyous sont des voyants ». Oui, je perce, on va dire, je perce des couches du temps et d'espace, mais j'entends aussi, surtout, ensorceler, si vous voulez, ce qui pour moi est une... Enfin, contre-envoûter, pour être plus exact, ce qui pour moi est un maléfice de la modernité.
Magicienne, voyante et voyou, mais aussi historienne de l'art. Difficile de définir Nadia Barrientos tant ses univers de voyage et de prédilection sont nombreux. Elle travaille sur la tradition alchimiste, la magie du Moyen-Âge et de la Renaissance, mais aussi sur l'histoire de Paris. C'est l'écrivain Philippe Vasset, grand arpenteur de Paris et passe-muraille, qui m'avait parlé d'elle. Elle organise des visites de Paris étonnantes, m'avait-il dit. Je la retrouve donc chez elle, un appartement s'inscrivant dans la plus pure tradition du cabinet de curiosité. Réagencement du monde, résonance, les objets sont disposés autour d'elle et se font écho. La tête de poupée tatouée et la rose de Jéricho, les fossiles, les cartes et les pierres. Puis, direction Paris la nuit, où Nadia m'emmène sur les traces des sociétés de Gueux. On les entend et devine leur présence, car, m'explique Nadia Barrientos, les apparitions affleurent quand Paris est à marée basse.
J'ai vécu différentes époques. Quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup vécu au 19e siècle. J'ai beaucoup vécu au Moyen-Âge, à la Renaissance. Enfin, je suis habitée effectivement par énormément de voix, dans les deux sens du terme, hein, des voix, des paroles et des lectures, bien évidemment, des gens qui m'ont précédée et qui m'ont ouvert à un imaginaire vivant. Et beaucoup de voix, de chemins, d'issues, de parcours, de songes, d'expériences qui m'ont initiée à une liberté dans l'imaginaire. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur de transmettre l'idée que l'imaginaire est un outil d'émancipation et un outil subversif et offensif. Encore une fois, une époque où tout est fait pour lisser et homogénéiser la pensée et d'ouvrir ses chemins dans le temps et dans l'espace.
Mais ça veut dire quoi, avoir vécu au 19e siècle quand on est enfant ?
Enfant, adolescente, j'étais énormément habitée par des figures de dandy autour desquelles je me suis, on va dire, construite. Dans Paris, je vois un peu les différentes couches de temps et les différents fantômes. Tout s'anime et le 19e siècle était très présent quand je me promenais dans les grands boulevards, par exemple, le café Tortoni et puis toutes ces diligences qui s'y arrêtaient. C'était des choses que je voyais à l'emplacement où aujourd'hui il y a le McDonald's de Richelieu Drouot. Donc c'est, si vous voulez, c'est une façon de traverser la ville voyante. Et ce 19e siècle, avec son faubourg Saint-Germain, avec ses résidences secondaires en banlieue où on prenait le chemin de fer et on allait au Palais Rose du comte de Montesquieu, par exemple, à Levésine et Lepec. Enfin, ce sont plein de parcours que j'ai fait et beaucoup de figures qui m'accompagnaient, telles que le comte de Montesquieu, Brumel, Barbé d'Aurevilly, Marcel Proust, Les Décadents, bien évidemment. J'étais fan de Huysmans, de Jean Lorrain. Et donc, de toute cette époque très vibrante où la révolution industrielle arrive et tout est bouleversé, notamment dans le milieu urbain, par un rythme qui s'accélère, un rythme très différent, et toute une cacophonie sonore et imaginaire. C'est mon 19e siècle à Paris.
Une autre époque que vous avez vécue et que vous vivez toujours, c'est celle du Moyen-Âge, avec une figure qui vous représente, qui est celle du battleur.
Alors le battleur, on le retrouve dans le tarot de Marseille, c'est la première carte qui ouvre le jeu. Le battleur, c'est une figure de magicien, d'illusionniste, de saltimbanque, on pourrait dire, qui pour moi est une figure tutélaire dans tout mon travail, figure que j'aimerais réhabiliter dans la pensée, parce que j'estime qu'il porte quelque chose de crucial et qui a été toujours discrédité dans notre culture depuis Platon et jusqu'à présent. Les saltimbanques et les magiciens ont toujours été chassés des villes parce que justement ils jouaient de l'illusion et donc de la tromperie. Mais cette tromperie, le battleur, c'est celui qui nous fait douter. Il est derrière un tréteau et puis il convertit quelque chose. Alors il est toujours entre le vrai, le faux, la fiction, le réel, le visible, l'invisible. C'est celui qui permet d'ouvrir une issue là où tout est uniforme.
Pour découvrir le Paris invisible de Nadia Barrientos, magicienne, batteleuse, rendez-vous sur son site internet www.paris-sortilège.fr. On est vraiment loin, très loin des visites touristiques. Vous serez surpris par ses plongées ésotériques, alchimistes, historiques, en tout cas vibrantes et poétiques. Les prochains rendez-vous, alors le premier c'est la Cour des Miracles, vendredi 21 septembre, et mercredi 26 septembre, les exécutions publiques dans Paris, peine, mise en scène, bourreau, écrit. Plus d'informations sur le site www.paris-sortilège.fr.
Merci Céline pour cette entrée. Nadia Barrientos de notre encyclopédie des mauvais gens. Ça me donne envie de créer des, avec vous des visites du Paris mauvais gens. On pourrait partir pour de la maison de la radio, bien sûr.
Oui, et puis on aurait pas mal de lieux à faire visiter.
Voilà. Au bout de 20 ans, ça en fait des souvenirs et puis des lieux de mémoire. On pourrait même créer, Guy Coste, un guide, des promenades du Paris rétrofictif.
Oui,
on irait où, c'est le Paris de rétrofiction.
Ils n'étaient pas partie de nos préoccupations quand on a rédigé, mais pourquoi pas.
Oui, on pourrait aller d'un lieu à un autre, l'Observatoire de Paris, certaines maisons d'écrivains.
Oui, on pourrait même aller un peu sur les lieux de quelques lieux historiques. Hein. Le moment de la Commune est assez intéressant, c'est un peu charnière pour certains auteurs. Un grand illustrateur comme Robida a connu cette période, et je crois qu'il y a encore des choses à découvrir du côté de Robida concernant la Commune de Paris.
Enfin, Robida, un jour, on lui consacrera une émission. Monsieur Dionnet.
Et puis, on pourra aller voir si on a bien volé la Tour Eiffel.
Ah oui, tiens, ce jour-là, on fera aussi une émission spéciale. En attendant, un rendez-vous et un événement tout à fait spécial et à quel on ne peut pas se dérober, c'est le 19 septembre au Musée de la Chasse, ma chère Céline.
À Paris. Pour le coup, c'est une proposition que Laurent Polleret et moi avons fait à partir de notre série documentaire sur la figure de la sorcière qui avait été diffusée en avril. Donc voilà, la proposition que nous avons faite, c'est celle de visiter le musée avec des voix de sorcières dans les oreilles. Donc, plutôt que d'habiller des lieux avec, des objets ou je ne sais quoi, nous, on a habillé les murs du musée avec des sons. Donc, vous allez rentrer dans la première salle, qui est la salle qui est dédiée aux sangliers, et nous avons créé une atmosphère propice aux sangliers, je dirais, et puis avec toutes les voix de sorcières qu'on a pu enregistrer au fil du temps.
Donc, alors, on va donner le mode d'emploi. Ça ouvre à quelle heure?
Alors, le musée ouvre de toute façon toute la journée, mais nous on opère. Voilà. Nous on opère à partir de 18h30,
je dirais. Arrivé vers 18h30.
Voilà, et puis il y a une option qui est celle d'aller assister à une conférence.
Alors vous avez une heure pour vous familiariser avec le monde des sorcières et des sangliers.
Oui.
Et à 19h30...
Et des loups et des cerfs
et des loups
tout ça, oui.
Et
à 20h, disons, 20h. Rendez-vous à l'auditorium du musée, où là il y aura une conférence autour des sorcières, je dirais plus des sorcières d'aujourd'hui, avec des questions politique, ésotérique bien sûr, et puis aussi féministe. Et là, pour nous en parler, il y aura Camille Dusselier, qui est une sorcière queer, et il y aura aussi Olga Poteau, qui est chercheuse et qui travaille sur les rapports entre la nature et les sorcières aujourd'hui. Et tout ça, ce sera animé par Anne de Malray, qui s'occupe de la revue Billboard.
Et Céline Duchesne.
Oui, je serai là. Et aussi, alors comme on a pensé aussi aux auditeurs qui ne sont pas parisiens, la conférence sera transmise sur le site de France Culture Conférence et aussi sur la chaîne YouTube de la Fondation François Sommer.
Que du Duchesnais. C'est à Paris le 19 septembre à partir de 18h30 au Musée de la Chasse. Venez nombreux.
Merci.
Et armés, l'endroit est désert, comme disait Tristan Bernard.
Il y aura quelques bêtes quand même qui traîneront dans les couloirs, je vous le promets.
Alors avant les sorcières, on va retrouver certains sorciers, certains manipulateurs du récit, certains illusionnistes avec Rétrofiction, la monumentale encyclopédie de la conjecture romanesque rationnelle et francophone de Guy Coste et Joseph Alterac. C'est chez Ancrage et c'est maintenant dans Mauvais Genre. Okay. que Laurent Polleray diffusait en ouverture de notre playlist, une musique de Bernard Parmigiani. Là, c'est de la conjecture musicale, rationnelle, tout à fait étonnante. Musique il n'y a pas d'entrée musique expérimentale pour l'instant.
Il y a une entrée partition.
Une entrée partition. C'est vrai que la musique n'est pas encore totalement dans la conjecture rationnelle dans la période que vous traitez.
Il faut qu'elle s'appuie sur un texte qui l'est un peu.
Voilà. On va voir. En quoi? Et donc, pendant la diffusion de ce morceau, un fait divers a eu lieu dans le studio. Guy Coste a tenté de me voler le tome 2 de Rétrofiction. J'ai réagi vigoureusement. Alors, il faut d'abord décrire l'ouvrage. On a donné le poids, 5,3 kg, le nombre de pages.
Il faut rectifier un petit peu, il semblerait que ce sera plutôt 4,7 kg.
Ah, j'aime la précision,
Des modifications, soit des modifications du champ de la pesanteur, selon les endroits, ce qui est tout à fait possible. Soit l'utilisation ou de balance à Peson ou de balance Robert Val, ce qui complique les choses.
On n'a pas compté le coffret.
Voilà.
Et en plus, on n'a pas compté
Jean-Pierre
le coffret, car
compris.
L'ensemble est sous coffret. Alors,
je pense plutôt à des modifications du champ de la présentation.
2300 pages, 11 000 entrées, ni plus ni moins. Et surtout, alors, ce qui fait toute la force, je dirais, de ce travail dans la manière de consulter, c'est qu'à la fin, il y a un triple index qui vous permet de circuler dans ces 11 000 entrées selon plusieurs critères, à la fois un critère thématique. Alors là, formidable index thématique, fouillé, détaillé, véritablement très, très sidérant, c'est le cas de le dire. Et puis, index chronologique également, et ensuite un index par titre, je crois.
C'est d'abord un index par titre, mais avant même, il y a un index effectivement thématique. En fait, cet ouvrage, il provient d'une frustration qu'on a eue avec Jo pendant l'écriture des Terres Creuses, où on s'était déjà dit la plupart des choses qu'on arrive à trouver, la documentation qu'on arrive à trouver, soit ce sont les textes eux-mêmes, et là on s'y est attelé à tous les lire, mais c'est surtout des faiseurs de listes qui faisaient des listes dans lesquelles on ne voyait jamais, mais jamais, et on en a parlé souvent ensemble, de résumer des bouquins.
Problème.
Alors ça, c'est très frustrant, donc on s'est dit, ça n'existe pas, en tout cas, à part le Versin et quelques essais qu'on pourrait citer, mais qui vont embêter l'auditeur. Mais on s'est dit, voilà un ouvrage qu'on pourrait faire pour rendre service aux chercheurs, aux collectionneurs, aux bibliothécaires et autres amateurs de livres.
On peut rajouter à ce problème, effectivement, de l'index thématique, l'influence de bénéfique, on va dire, hein, des ouvrages de Blyler, hein,
sont des ouvrages Blyler, américains. Donc c'est un érudit américain, voilà, qui a notamment fait un très gros livre fort cher sur notamment les fanzines et les comics.
Les pulps américains.
Il en a fait, ils sont deux, hein, je crois que c'est le père et le fils, avant que je ne dise une bêtise. Oui.
Non, c'est bien ça.
C'est le père et le fils.
Ils en ont fait trois, ils ont fait un énorme volume sur le, on va dire le fantastique, hein, pour faire simple, sur la vieille SF anglo-saxonne, qu'il ne faut pas confondre avec la SF des pulps, et sur la SF des pulps. Et notamment, enfin dans les trois, mais c'est surtout dans celui sur la SF des pulps Gerzbachien, que les Blyler ont été brillants en instaurant un index thématique du genre martien à deux bras, trois bras, quatre yeux, qui au début provoque le sourire du lecteur et qui, à l'usage, quand je dis le lecteur, c'est moi, s'aperçoit que ça lui est effectivement utile. Et on s'est donc dit qu'on allait essayer d'imiter les Blyler sur ce point, tout en étant conscient du caractère subjectif des thématiques.
D'autres travaux à citer, que cite d'ailleurs Gérard Klein dans sa belle préface à cette encyclopédie, donc Brian Stableford et Jean-Marc et Randy L'Officier, qui aussi ont fait des travaux équivalents au vôtre. Alors, ce qui est important maintenant, c'est vous avez parlé, on a cité deux fois le nom de Pierre Versin, puisque cet ouvrage s'est entièrement élaboré, à la fois comme un parachèvement, une continuité, une refondation d'un livre très important, donc qui est un peu l'encyclopédie de l'utopie et de la science-fiction de Pierre Versin.
Je crois qu'on peut dire que l'encyclopédie de Pierre Versin a vraiment été...
On donne la date
1972. Voilà. C'est vraiment une pierre de touche. Hein. C'est énormément en France, en tout cas.
À l'âge d'homme, à l'époque.
À l'âge d'homme, en plus, oui. Énormément de passionnés sont devenus, ou ont eu la confirmation du fait, se sont aperçus qu'ils étaient passionnés en découvrant l'encyclopédie de Versin. On se reconnaissait entre connaisseurs parce que on avait consulté et apprécié l'encyclopédie de Versin. C'est véritablement une sorte de, je voudrais presque dire, de fraternité qui s'est créée autour de ce livre, qui est devenu une référence. Nos amis qui nous ont beaucoup aidés, il faut les citer ici, Philippe Murat et Philippe Etuin, qui sont nos brillants nos petites mains. On va dire de les brillants seconds.
Fort brillants.
Brillants seconds qui ont lu et dépouillé beaucoup de textes aussi et rédigé un certain nombre d'entrées font partie de cette vaste confédération occulte mais pourtant publique, hein, et qui se reconnaît très bien des admirateurs de Pierre Versin. On est vraiment parti de Versin, je crois qu'on peut
alors
dire.
Vous êtes parti... C'est un hommage, oui, à Pierre Versin, en toute...
C'est un hommage à Versin, c'est une volonté de poursuivre et de continuer son effort, avec notamment un emprunt à Versin, qui est celui, je dirais, du concept générateur de tout à fait, du livre, qui est le concept de conjecture, non pas conjoncture, mais conjecture, romanesque, rationnelle. Alors là, Guy Coste, il faut expliquer à nos auditeurs ce qu'il en est de la conjecture rationnelle.
Vous pensez bien que je ne vais pas m'y risquer à ce micro, mais la conjecture, c'est la littérature du possible. Scientifique, oui, parce que c'est les prémices de la science-fiction. Des utopies, puisqu'on les rattache. En tout cas, Pierre Versin les avait rattachées avec ce commun dénominateur. Et les voyages extraordinaires. Donc nous, on a repris son terme, on se l'approprie et on le développe, mais dans le domaine purement francophone. Voilà un peu le concept du bouquin. Je voulais juste rajouter quelque chose pour l'index. On a voulu que ça soit quelque chose où le lecteur s'y retrouve, et au final, on se rend compte qu'il va s'y perdre. Mais c'est pas plus mal.
Mais c'est agréable de s'y perdre. Jean-Luc Rivera.
Je suis tout à fait en désaccord. L'index, alors on peut peut-être revenir, je voudrais juste rebondir sur l'index.
Allons-y.
Moi j'avoue qu'effectivement on s'y perd, mais avec un bonheur extraordinaire en suivant. Par exemple, bon, je ne surprendrai pas certains de vos auditeurs ici, François, en disant que curieusement je me suis précipité immédiatement sur l'entrée cryptozoologie.
Tiens donc,
c'est bizarre. Possible. Bon ben, entrée cryptozoologie, 143 titres. Plus 45 titres pour crabes, crustacés et gastéropodes géants, et 32 titres pour les dinosaures survivants. C'est le bonheur du cryptozoologue. 11 variétés d'avions extrapolés, y compris moi qui m'étais toujours posé la question, combien y avait-il de titres avec des avions extrapolés à ailes battantes? Bah, vous avez la réponse. Et tout est comme ça dans cet index, c'est fabuleux. C'est fabuleux.
Ça n'exclut pas les oublis, bien entendu. On a préféré oublier des choses, même involontaires, que de provoquer et de continuer de perpétuer des erreurs.
À vrai dire, on pourrait aussi proposer aux lecteurs qui seront, ils seront nombreux, je pense, et qui entreront en profondeur dans cet ouvrage, de se refabriquer ensuite eux-mêmes leur index thématique, parce qu'effectivement, il y a bien d'autres manières croisées comment dire, de caractériser tel ou tel texte.
Alors, pour tout vous dire, j'ai même moi-même commencé. Jean-Pierre Dionnet.
Et moi, j'aurais souhaité un index supplémentaire par auteur, citant des auteurs. Donc, oui, par auteur. Alors, je sais que ça aurait été énorme, parce que quand il y a une collaboration entre deux auteurs qui se réfèrent à un troisième, mais une centaine de pages de plus ne m'aurait pas gêné de toute manière.
Là, non. Que notre éditeur nous entende, on lui avait bien dit qu'on voulait faire ça, mais bon, voilà.
Il a choisi de faire court.
Ah, ça aurait été vital. Non.
Ensemble continental, un continent de l'imaginaire, Guy Coste et Joseph Alterac, qui est quand même borné et limité par une première et une date, par un cadre chronologique très précis, 1532 Rabelais et 1951. Alors comment peut-on justifier ces choix? Parce que j'imagine qu'il y a peut-être des travaux de conjecture avant 1532 et qu'il y en a quand même énormément après 1951. Alors pourquoi ces deux dates?
Alors l'avant, c'est que bon, là vraiment, il faut bien commencer par quelque chose. Il nous avait semblé. Alors on avait eu une hésitation. Il y avait une utopie qui était souvent présentée comme la première utopie française. Ça guise son titre m'échappe sur le coup.
C'est on le royaume d'Antangile, d'un voilà. Anonyme dont on n'a jamais percé le mystère.
Bon, on avait considéré un moment qu'on allait démarrer à cette.
Alors c'est 1616.
Voilà. Et puis on s'est dit que finalement, pourquoi se passer de Rabelais? On nous ferait le reproche. On a décidé de démarrer à Rabelais, voilà.
Alors le début, on devine à peu près avec Rabelais, parce que oui. Rabelais, la Renaissance, l'humanisme, oui, voilà. La mise à feu un peu de toute une oui. sorte de réflexion à la fois scientifique, philosophique, la nouvelle rationalité européenne. Ah, oui. Bon, on voit très bien pourquoi Rabelais.
Et par l'utopie contre, de l'abbaye de Thélème.
Et l'utopie de l'abbaye de Thélème. Donc là, il y a une cohérence profonde avec Rabelais. On sort du, je dirais, du merveilleux médiéval pour entrer déjà dans des conjectures rationnelles véritablement. Par contre, 1951, alors là. Guy Cosse, on se pose la question.
Alors ça paraît précis, mais ça l'est en fait. C'est l'apparition. c'est l'apparition en France après l'invention du mot, du terme de science-fiction aux États-Unis en 26-29. C'est l'apparition des premières collections françaises de science-fiction, voilà, qui sont Le Rayon Fantastique, coédité par Gallimard et Hachette, et Le Fleuve Noir, qui sont toutes les deux apparues. Le fleuve en anticipation, bien sûr, qui sont toutes les deux apparues en 1951.
Alors voilà. Pourquoi s'arrêter alors que comment, je dirais, la reconnaissance officielle éditoriale du phénomène science-fictif?
Parce qu'on est déjà à 115 euros avec deux tonnes énormes et que l'éditeur nous aurait jeté des pierres. Mais ça nous fera l'occasion de faire un troisième tome.
C'est, oui. Voilà. C'est une,
alors pourquoi
la réponse
cette date
de Guy est juste là, je suis d'accord, pour le problème du prix et tout cela. Il y a aussi, pour nous semble-t-il, hein, alors ça, tout le monde ne sera pas d'accord. Mais l'arrivée de la science-fiction américaine en France à la fin des années 40, donc à partir de, on va dire, 51, mais on peut dire un ou deux ans avant ou après, me semble provoquer un bouleversement. Il se passe quelque chose et qu'on le veuille ou pas, les écrivains français, les créateurs français vont être très profondément marqués, influencés, vont être obligés de réagir fortement en bien ou en mal, enfin de toutes les manières possibles.
Mais certains vous diraient, Joseph Alterac, hein, qu'avec Wells, c'était déjà le cas. Oui, on était bien avant 1950.
C'est Rider Haggard ou d'autres.
Ou Rider Haggard ou Wells. Alors, ce que je dirais dans le cas de Wells, Rider Haggard, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais pour Wells, je dirais que Wells a été adopté comme écrivain français. C'est-à-dire que quand on lit tout ce qui est dit sur Wells autour de Wells et toutes les références qui sont faites à lui, à partir du moment où il écrit des scientifiques romances qui sont publiés en français, il est adopté par les Français. On perd de vue presque que c'est un écrivain anglais. Mmh. Tout le monde le cite comme faisant partie de la maison, mais en effet, l'arrivée de Wells est considérable.
Mais pas dans des collections dites de science-fiction.
Mercure de France. Voilà, à partir des années 10.
Le choc n'est pas du même ordre. Il y a un choc éditorial très particulier avec l'arrivée de la science-fiction américaine, que nous connaissons tous, et qui, je pense, a eu un impact considérable.
Jean Écrivain.
Oui, je pense qu'effectivement, il y a une différence complète de taille et d'appréhension, parce que, en particulier avec la collection Anticipation du Fleuve Noir à la fin 51, la science-fiction rentre vraiment dans la littérature la plus populaire qui soit, et en étant définie en tant que telle. Et l'impact américain est très important, puisqu'on voit que certains auteurs sont même américanisent même un petit peu leur nom, hein. Ça devient Jimmy Yu, Peter Randall,
Boris Vian,
etc. Il faut américaniser un petit peu, et je pense que vraiment 1951 marque l'entrée de la science-fiction dans le domaine de la culture très populaire, ce qu'elle n'était pas avant en étant identifiée en tant que telle, parce que avant la guerre, oui, il y avait de la science-fiction dans des collections populaires, mais ça n'était pas, c'était perdu dans les romans d'aventure.
Oui, et alors l'époque est tellement américanisée que Vian va devenir Vernon Sullivan et qu'en polar, Serge Laforest va devenir Terry Stewart. C'est-à-dire qu'on veut acheter de l'américain. Tous nos auteurs français vont prendre pendant 4-5 ans des noms américains. Et beaucoup de gens ont dit à l'époque, ce Vernon Sullivan, qu'est-ce qu'il a été bien traduit par Boris Vian.
Alors, autre élément important, à la fin, alors toute fin du deuxième tome, nombre de titres par année entre 1532 et 2015. Et on se rend compte d'une chose, c'est que le décollage, c'est-à-dire le passage à une production annuelle de romans de conjecture rationnelle, passe à une catégorie à trois chiffres à partir de la Belle Époque, 1899, 123 volumes parus, et se maintient de façon constante à cette hauteur jusqu'au, effectivement, 1950, avec une, comment dirais-je, une pointe à 1933, et c'est surtout à cette époque, entre 1918 et 1939, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20, les années 30, que se situe le fort de la production, Guy Coste.
Alors, c'est un outil supplémentaire qu'on a voulu quand même intégrer au livre pour justement provoquer les réactions que vous êtes en train de faire, mais il ne faut pas en tirer des conclusions trop hâtives non plus. Joseph est un grand ennemi de la statistique qui pourrait surgir à partir de ce type de tableau. Je vais le laisser développer là-dessus. Mais voilà, c'est un outil supplémentaire.
Alors Joseph Alterac, l'ennemi de la statistique. Alors, c'est parti d'un roman.
Voilà, ça pourrait être l'ennemi de la statistique pour deux raisons. D'abord que ça peut être paradoxal, mais nous avons combien de titres cités en tout dans
11 086
pour faire des statistiques, pour moi ça ne tient pas. Mmh. Voilà, déjà. Hein. Et deuxièmement, il y a un mélange de catégories. On va mélanger un fascicule avec un roman, avec éventuellement une gravure ou un dessin dont on a recensé le titre, ce qui fait que le corpus
me semble trop éclectique.
Alors
justement,
on peut repérer des choses. Faut pas
C'est vrai que là, le passage quand même à 180, à 200, à 250 se fait quand même sous la Troisième République. C'est quand même une période.
On va dire que c'est du multimédia, c'est l'époque où on illustre beaucoup, on met des photos à côté. Alors, donc c'est peut-être comme ça qu'il y a plusieurs entrées.
Absolument. Ben, y en a à ce point parce que c'est une autre richesse, une dimension autre essentielle de rétrofiction, c'est la variété, je dirais, des supports et des médias qui nous sont proposés. Parce qu'il y a non seulement le livre avec toutes ses formes, le roman, la nouvelle publiée dans la presse, mais il y a également d'autres objets. Qu'est-ce qu'il y a?
Oui, je montre ici. Il y a la radiodiffusion.
Et il y a la radio, bien évidemment, effectivement. Mais il y a d'autres éléments que vous avez listés, que vous avez, je dirais, fichés. Les assiettes, les buvards, les calendriers, les cartes postales, le cinéma, le coloriage, les devinettes, les éventails. Donc vous êtes également intéressé à la manière dont tout cet univers, je dirais, de la conjecture, l'anticipation, de la conjecture rationnelle, eh bien, rayonne dans la culture populaire et même dans la culture publicitaire.
Alors, François Angelier est un sorcier parce qu'il va finir par nous faire croire qu'il a lu le livre alors qu'il l'a reçu avant-hier, mais très bien. Juste une précision pour les index et les statistiques. Joseph a souvent l'habitude de dire, parce qu'il reprend quelqu'un d'autre, mais peu importe, c'est qu'on ne ferait pas confiance à des chiffres qu'on n'aurait pas trafiqués nous-mêmes.
Ah, donc tout est faux.
Voilà, donc tout est dit. Pour les entrées qui ne sont pas les entrées par auteur, ce sont des supports qui ont voulu être mis en avant. Effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand nombre de cartes postales qui étaient de conjectures romanesques, rationnelles, dans l'intérieur du corpus, c'est-à-dire entre 1532, il n'y en a pas beaucoup, et la dernière guerre, où là, les collections foisonnent. Et on a trouvé un grand nombre d'illustrateurs. Et ainsi de suite, pour les autres supports, les éventails, vous avez raison, les partitions musicales, j'y tiens, parce que c'est un support sympa, et autre type de support.
Petite déception, les jeux et les jouets, nous avons été nous-mêmes surpris en faisant le tour de nos collections personnelles celles de nos amis, et en faisant un écumement vraiment très large, en demandant partout, le listing n'est pas... pas très considérable. Hein. En fait, ça semble être le jouet science-fiction, c'est un phénomène américain, visiblement. Ce n'est pas tellement un phénomène français.
Alors, élément extrêmement important, les illustrateurs, la bande dessinée, Jean-Pierre Dionnet.
Alors, j'allais dire, justement, moi, j'ai cherché la faute, évidemment, et je l'ai depuis plus longtemps quand je l'y ai, donc j'ai vraiment cherché la faute. D'abord, dans la bande dessinée québécoise. Parce que je me souvenais qu'il y avait des bandes dessinées canadiennes de science-fiction dès 1938. Elles sont anglophones. Donc, j'ai perdu. J'ai pensé, mon père des philatélistes, au timbre. Il y en a eu, c'est plus tard. J'ai pensé aux images de chocolat. Elles sont plus tard.
Alors, il y en a quelques-unes, Jean-Pierre.
Oui, il y en a quelques-unes, mais enfin, le gros
ouais,
stock.
C'est vrai.
Et alors, je n'ai trouvé qu'une chose, mais alors, est-ce que je peux le reprocher? Non, c'est une revue qui a 8 numéros. qui s'appelait King Kong, qu'on peut considérer comme conjectural, une histoire commencée par Poivet, par Calvo, finie par Poivet au numéro 8, et un baron de craque de Henri Lemonnier que vous traitez longuement. C'est donc là, 8 numéros d'une revue qui n'a pas duré plus et qui est sortie en 1944. Je crois que je dois être de bonne foi.
Le seul à posséder les 8 numéros en question.
Oui, mais je crois que je vais être de bonne foi. J'ai trouvé ça sidérant. Parce que c'est pas, je ne cherchais pas pour vous mettre en faute, je cherchais pour vous aider au volume suivant. Eh bien, je n'ai rien trouvé, je suis totalement sidéré par votre érudition. Il y a des illustrateurs, je ne savais rien, et auxquels vous consacrez 10 colonnes, et je connaissais leurs dessins. Et je ne les avais pas identifiés, entre autres, un qui signait un peu comme Robida ou comme Henri Morin, mais indécelable. Donc je me disais, c'est ni Robida ni Henri Morin. Maintenant que je sais que c'est... Je ne sais plus.
Marius Meunier, peut-être.
Voilà. C'est exactement ça. En plus, il connaît les réponses à mes questions sans le livre.
Alors maintenant, effectivement, on a fait un peu le tour du le cadre conceptuel du livre. On a regardé un petit peu les méthodes d'usage de l'encyclopédie. Mais pour pas que nos auditeurs aient l'impression que ce soit un gigantesque index et rien que ça, eh bien, on va descendre un peu dans les profondeurs du livre.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
François Angelier qui reçoit ce soir dans Mauvais genre, effectivement, Guy Coste et Joseph Alterac pour Rétrofiction, le colossal encyclopédie des conjectures romanesques rationnelles. Alors effectivement, vous disiez en ouverture d'émission que vous avez voulu échapper à cette espèce d'enfer des listes très sec et un peu désertique où il n'y a que des computations, qu'il y a simplement des titres en donnant eh bien la chair même du texte. Et effectivement, chaque entrée est dotée d'extraits souvent très longs. Joseph Alterac.
Chaque entrée pour des extraits, mais nous avons toujours indiqué pourquoi nous considérons que le texte ou l'image, etc., est conjectural. Et assez souvent, nous avons mis des extraits parce que finalement, au fond, c'est encore la meilleure manière de le prouver. Et pour certains textes qui ne seront, j'en ai peur d'ailleurs, lus uniquement qu'à travers cette encyclopédie, ben, mieux vaut qu'ils soient reproduits dans cette encyclopédie.
Jean-Luc Rivera, alors quelles sont les entrées que vous avez pu détecter?
Alors, il y a une foultitude d'entrées absolument extraordinaires. J'avoue que, bon, je n'ai eu l'ouvrage que depuis hier. Alors, j'ai feuilleté et je me suis penché surtout sur des noms que je connaissais pas. Alors, par exemple, j'ai trouvé très amusant de voir qu'on découvre qu'il y a des nommés Jean Flamand, qui est le pseudonyme d'Albert Van de Waal, polygraphe apparemment célèbre dont je n'avais jamais entendu parler, qui a écrit un court roman qui s'intitule L'Autofantôme, et qui est une histoire d'auto-téléguidé. J'ai trouvé ça extraordinaire qu'il y a quelqu'un qui ait déjà pensé, alors qu'on parle beaucoup aujourd'hui des voitures autonomes, que déjà, donc, c'est sorti dans la célébrissime collection Pierrot des éditions Montsouris, que tout le monde connaît, bien entendu, en 1951. J'ai trouvé ça, par exemple, extraordinaire de tomber là-dessus. Et il y en a, je dois dire que là, le bonheur, c'est d'aller au hasard. On ouvre au hasard les pages et on n'est jamais déçu.
Alors de mon côté, j'ai l'honneur de vous faire découvrir André Moret, né en 1900 et mort environ en circa 1973, universitaire, spécialiste de langue allemande et auteur de poèmes, notamment « Chant perdu dans la rafale » en 1926, car il y a non seulement les novellistes, les romanciers, mais aussi les poètes. Géants fauves et prognates, arqués dans l'ombre épaisse, sous les grands pins dressants, tels des torses leurs fûts, l'homme velu guettait à l'heure des affûts quelques cerfs voyageurs dont sa faim se repaisse. Prêt à bondir soudain, le silex qui dépaisse, vaguement frémissant au cœur des bois touffus, il sentait sourdre en lui le sentiment confus des destins ténébreux suspendus sur l'espèce. Dans l'antre de la horde, au flanc cave du mont, craquait le mangeur rouge, épouvantable et bon. Le feu divin, terreur des aurochs et des louves, et dans l'énorme nuit, il dansait dans les yeux des hommes accroupis parmi les hautes flouves, et les temps s'étendaient sans bornes devant eux. Voilà, tout le monde aura reconnu, bien évidemment, « Couchant quaternaire », un poème d'André Moret, une des richesses et une des révélations de rétrofiction de Guy Coste. Comment trouve-t-on un ouvrage pareil, Guy Coste? Parce qu'il est quand même publié aux éditions Radeau en 1926, avec des bois de Louis Neyot dans la collection pour le lettré.
Tout est dit.
Voilà. Oui. Alors, comment ça a pu attirer votre attention, votre curiosité?
Depuis les Terres Creuses, on s'est aussi beaucoup intéressé, bien sûr, à la littérature qui parle de préhistoire. Il n'y a pas de littérature préhistorique, ça se saurait, mais voilà, on s'est intéressé à cette littérature qui parle de préhistoire parce que la préhistoire est une conjecture au même titre que les utopies, les voyages extraordinaires. Donc c'est à ce titre-là que ce type d'ouvrage, et là c'est un poème bien velu, est intéressant.
Et alors, je pense à la question de François Angélique, il y a aussi l'idée, certes, on s'intéresse à la préhistoire parce qu'on la voit comme conjecturale dans la tradition notamment de Pierre Versin, mais il n'est pas le seul. Et puis évidemment, c'est Rognier fondamental dans cette idée d'annexer la préhistoire. Mais la question, je crois, c'était aussi, mais enfin, comment est-ce que vous arrivez à les repérer, les textes en question?
De fait, oui, parce que ce qu'il faut dire à nos éditeurs, c'est qu'il y a les textes qui sont, je dirais, objectivement, de par leur titre, leur couverture, le nom de leur auteur, ou, je dirais, figurent dans des listes, relèvent un peu de l'anticipation, du merveilleux scientifique ou de la conjecture rationnelle. Mais vous citez également des textes qui sont masqués, que rien ne peut identifier comme tels, également des textes qui sont dans des quotidiens, dans des revues, dans des numéros de Noël, et là, il faut aller les chercher. Moi, par exemple, je suis allé à votre rencontre, je me suis intéressé aux fins du monde. J'ai regardé dans un numéro du Temps, il y a un conte, effectivement, sur le déluge. Mais il fallait le trouver, là, Joseph Alterac,
ce conte sur le déluge. Je dirais qu'il y a une première chose, c'est que nous sommes vieux, on ne va pas se le cacher, et que ça fait très longtemps que nous intéressons à la science-fiction, mais vraiment très tôt et très très vite, que ce soit Guy, que ce soit moi, ou quelques amis qui nous ont aidés, c'est un travail de passionné fou furieux, il faut bien le dire.
Oui, vous avez utilisé vos collections personnelles.
Voilà, je n'aime pas le terme de collection, qui ne veut rien dire. Non, nous sommes des passionnés de documentation.
Documentation personnelle.
Voilà, depuis très longtemps, on cherche. Il faut dire que, encore une fois, le Versin a été un déclencheur de cela. Parce que quand on feuillette le Versin, encore aujourd'hui, hein, on est surpris aussi du caractère éclectique de ses sources. Hein. Bon, ça, c'est quelque chose qui, moi, m'avait beaucoup frappé. Je pense que ça a frappé tous les lecteurs de Versin. Donc on se dit, à partir de la lecture de Versin, attention, de la science-fiction, il n'y en a pas que dans nos collections favorites, etc. Et il y en a partout, il y en a à toutes les époques.
Surtout quand on s'intéresse à une période qui est avant. Voilà. Avant la mise à jour des collections officielles.
Alors, on pourra dire, officielles. Guy pourra en dire un petit mot aussi, peut-être. Il a participé. Il y a, dans ce genre d'entreprise, il y a eu à un moment donné une entreprise très, très intéressante par le libraire et grand passionné Philippe Valbled qui avait créé un petit bulletin. Le bulletin des
amateurs d'anticipation ancienne et de fantastique.
Et du fantastique.
On a oublié le fantastique.
On a oublié le fantastique. L'idée, c'était il s'adressait à des clients. Hein, c'est un libraire, mais c'est un libraire grand lecteur et très grand passionné, lui-même collectionneur. Et en fait, les clients qui venaient lui acheter des livres et qui discutaient avec lui, normalement, chroniquaient, écrivaient un petit texte sur une trouvaille de science-fiction ancienne qu'ils avaient faite, lui donnaient. Et lui recueillait ses petits textes, ses petites chroniques dans ce fameux bulletin, qui n'était distribué co-collaborateurs. Donc, c'est un effet de petit système comme ça.
Un circuit clos.
Voilà, un circuit clos. Alors évidemment, quand on participe des années à ce genre d'entreprise, on finit par acquérir une espèce de feeling pour trouver les textes. Et il y a toujours un défi qui est quel beau volume d'éveiller des chaumières, je vais tout feuilleter pour voir s'il y a quelque chose. Alors, on n'est pas à l'abri de certaines déconvenues, il faut bien l'admettre. Je ne sais pas si on a beaucoup de veillées des chaumières là-dedans.
Non, il y en a, mais pas beaucoup.
Très peu. On a au moins deux textes tirés du Chasseur français, dont on est assez fier quand même.
Des textes préhistoriques.
Deux textes dans le Chasseur français, des textes préhistoriques. Voilà. Donc, il faut avoir du courage un peu.
C'est alors, dans cette rétrofiction, il y a Théodore de Banville, Paul Valéry, Louis Veuillot, Paul Claudel, je suis très sérieux, Charles Maurras, les grands noms, les noms labellisés, répertoriés, canoniques de la culture littéraire, mais il y a également Francis Blanche.
Je t'ai promis de t'emmener dans ma fusée, te promener à la recherche d'autres mondes. Nous y voici et pour longtemps, mais nous aimerons-nous autant à 25 000 mètres secondes. On s'est promis de ne pas se quitter, mais il y a la promiscuité qu'il faut supporter sans se plaindre. Oui, j'ai la place pour deux cœurs, mais peut-on vivre un grand bonheur dans un aussi petit cylindre? La pesanteur n'existe plus, nous voltigeons comme des fétus dans un vraisemblable
costume. Le voyage vers Vénus de Francis Blanche, qui figure, il y a une entrée donc blanche dans les rétrofictions de nos invités Guy Coste et Joseph Alterac, Jean-Luc Rivera.
Alors, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Joseph Alterac, on fouille le chasseur français, etc. Ce qui m'a beaucoup frappé dans les livres, c'est aussi la présence, et ça pour moi c'est tout à fait inédit dans ce genre d'études, de tous ces dessinateurs de presse. Et je voudrais savoir, est-ce que là aussi, comment fait-on pour découvrir tous ces dessins parus dans la presse quotidienne? Vous avez dépouillé tous les journaux de France et de Navarre systématiquement, page par page, pour tomber sur le dessin de conjecture rationnelle qui pouvait être publié de temps en temps?
Oui, on peut dire ça, sûr. Comme ça. Et en effet, mais ça fait nous-mêmes, hein, Guy et moi-même, et puis que différents amis, je parlais du bulletin tout à l'heure, ça fait des années que ce type de passionnés dont nous faisons partie se livrent à cette activité amusante de chasse un peu partout. Alors, ajoutons aussi, il faut absolument rendre hommage à ce travail qui est fait, ajoutons aussi la présence de Gallica, qui depuis quelques années...
Que j'allais vous dire.
Voilà, depuis quelques années, met en ligne un nombre considérable de revues et de journaux scannés qui permettent une recherche extrêmement commode.
Et une recherche de la littérature cachée.
Aussi, voilà. Donc ça permet, par exemple, si on peut s'amuser, oui, pour nous c'est un amusement, mais c'est aussi un travail. Je donne un exemple, c'est pas tellement sur les dessinateurs, mais c'est sur l'utilité de Gallica. On cherche sur Gallica, dans presse, on tape le mot « anticipation ». Et là, il faut un peu de patience aussi pour tout regarder.
12 000 entrées.
On va avoir des surprises intéressantes, on va s'apercevoir que pour désigner ce que nous on appelle une anticipation, c'est-à-dire un texte de science-fiction qui se passe dans le futur, en réalité, le mot « anticipation » n'est jamais employé dans ce sens-là avant 1900 et des poussières. Pourquoi ? Parce que à partir de 1900-1901, il y a un recueil de textes de Wells qui est paru en français qui s'appelle Anticipation. Et à partir de ce moment-là, on va voir doucement apparaître le terme Anticipation qui va signifier un texte de fiction qui se passe dans le futur. Mais ce n'est nullement le cas avant. Ce genre de découverte, on le fait grâce à Gallica.
On termine avec Jean-Pierre Dionnet.
Alors, je vais vous dire... Les amateurs de bande dessinée, qui comme moi sont des fouilleurs, on va dire poliment, eh bien il y a des choses que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Sourio, qui a illustré Alain Météor dans Tarzan de Maurice Lima, et c'est le chaînon manquant entre le Raymond Poivet tardif, Poivet cité dans le livre, entre le Poivet tardif du Jardin Fantastique et Cora de Frank Godwin. Et puis, les amis d'illustration, on aime tous... Loriou, ces petits animaux magnifiques, magiques, féeriques. Eh bien, Loriou a fait des dessins horribles pour un drame d'André Delorde, le laboratoire des hallucinations, et donc pour le grand guignol, une découverte.
Merci Jean-Pierre et toutes ces entrées viennent de Paul Claudel à Svoboda, d'ailleurs, réalisateur de Croisière sidérale, film aimé de Jean-Pierre Dionnet, en passant par 11 000 figures, personnages, buvards, assiettes, nouvelles, romans, affiches, calendriers. Presque 4 siècles de production francophone de l'imaginaire à retrouver donc dans les 2 tomes de Rétrofiction, l'encyclopédie de la conjecture romanesque rationnelle francophone de nos invités Guy Coste et Joseph Alterac. Terminer cette émission de Mauvais Genre avec un autre érudit, un autre anthologiste, mais qui lui évolue dans le fantastique et l'horrifique, c'est le grand Jacques Finet, Jean-Pierre Dionnet.
Eh bien oui, Jacques Finet finit son œuvre, si on peut dire, mais il a encore du chemin devant lui, j'espère, car il réédite le panorama de la littérature fantastique américaine jusqu'à nos jours chez Terre de Brume, donc un pavé, mais un pavé qui s'arrête maintenant en 2018, même s'il dit que le fantastique s'est arrêté en 1886. Ça fait partie de ses paradoxes. Et puis enfin, il publie un livre unique au monde. Il publie l'univers des ghouls. Il dit que dans le carré d'as, vampire, loup-garou, fantôme, ghoul, la goule est le mal-aimé. La goule n'a jamais eu de livre. J'ai vérifié, c'est vrai. La goule, donc, c'est quoi? C'est cette créature monstrueuse qui mange des cadavres le plus faisandé possible. Eh bien, dans l'univers des ghouls, toujours chez Terre de Brume, c'est souligné chronique d'une mal-aimée. Il dit oui, pourquoi on n'aime pas la goule? Elle est écologique, elle débarrasse des cadavres. C'est la faute à Galant. Dans les mille et une nuits, il rajoute des goules qui viennent d'ailleurs et elles ne se transforment plus en belles femmes. Donc, ce sont des créatures monstrueuses, mauves, qui se repaissent de cadavres. Il dit aussi que la goule, c'est un peu le côté Scheherazade des mille et une nuits, mais elle va s'occidentaliser une fois, ça sera grâce à Hoffmann. Et après, il dit que ça s'arrête en 1825 et il continue jusqu'en 2018 en disant que récemment, il y a eu une très belle goule. Et je vais vous dire, hier soir, j'allume un appareil de télévision, je regarde une nouvelle série indienne, elle s'appelle Goule, elle est indienne donc, et on y voit comment les ghouls vont peut-être sauver l'humanité. Mais en attendant, je reviens au livre, il y a à peu près tout donc sur la goule, même dans les séries comme Twilight où elles n'apparaissent pas, comment on méconnaît les ghouls, pourquoi une goule est quelque part un mal plus que nécessaire, et que peut-être que la goule vient du fait que Galant, consul à Constantinople, voyait les hyènes ricaner, et que les hyènes lui ont donné l'idée de femmes hyènes et de ghouls. Mais on sait très très bien, nous savons tous, ils le savaient aussi, que ça vient de Halgul, qui dans le Coran, Al-Ghul veut dire l'innommable, la créature. Donc nous sommes également dans la religiosité. La Ghul est une créature religieuse nécessaire qui nous débarrasse des cadavres.
Donc une charognarde.
Donc c'est une charognarde et le livre, contrairement à moi, est plein d'humour, car il passe le temps à dire que la goule, c'est un peu Jean Lefebvre dans les films de Lautner, celui dont on s'occupe pas, celui qui n'intéresse personne. Et il dit, quand même, la pauvre goule, avec tout le travail qu'elle fait, eh bien, je crois que cette série télé, peut-être, va rendre la goule mondialement célèbre. Il est temps. Assez de zombies, assez de vampires, assez de loups-garous. On veut des ghouls. Voilà. Eh bien, Jacques Finet nous amène l'univers des ghouls. Combattons.
Voilà, si vous voulez adhérer à au comité de soutien et de promotion de la figure de la goule, vous écrivez à Jean-Pierre Dionnet. C'est un mauvais genre France Culture.
Viens Angelier.
Il y a des ghouls dans Rétrofiction, Guy Coste?
Il n'y a pas de ghouls. À mon souvenir, il n'y en a pas. Et on le regrette, bien entendu.
Mais ce sera pour le tome 3. On termine cette émission, bien évidemment, avec le maître Beer.
Sous un mandrac multicolore de Kiki Picasso, Serious Publishing ressuscite un drôle d'ouvrage publié en 1969, annuaire de la magie offrant les photos promotionnelles et les fiches informatives de 187 personnalités, en majorité inscrites à l'AFAP, Association française des artistes prestidigitateurs. De Bernard Andréy, dit Adrien Béran, inspecteur général d'assurance et directeur de l'Antre Magique à Nice, à Rolf Wollert, dit Zaro Zaro, professeur de français à Gothenburg, toutes les spécialités sont déclinées. Mentalisme, cartomagie, ventriloquie, évasion, suspension cataleptique, mal des Indes, ombromanie, magie chinoise, sculpture sur ballon, homme radar, tel Georges Cochet, dit Géo Coche, président du Magic Club Rennais. Gérard Majax se définit comme pickpocket, tandis qu'un autre débutant, Dominique Webb, met en valeur ses tours de lévitation. Au royaume du trompe-l'œil, identités multiples et pseudonymes rivalisent d'exotisme et d'étrangeté. Le Marseillais Pierre Marty, en kimono orné d'un dragon, devient Shang Mei-Lin. Paul-Philippe Mollard préfère se rebaptiser Héphaïstos. Sa photo promotionnelle n'est qu'un crâne vaniteux. La Lilloise Liliane Petitpas, rare femme de l'annuaire, devient Ariel Deville, en barésie et guêpière tout sourire. Quelques grands noms surgissent. Le militant anarchiste Robert François, alias Mistag, qui démystifiait dans les cafés des tours de fakirisme et d'occultisme. Le spectaculaire Henri Crétieno, dit Mireldo, sciant ses partenaires en deux et les décapitant. Le burlesque Alex Deschaux, dit Alec, dressant son zèbre savant. La profusion des amateurs enchante encore plus, pour qui la magie est une passion exercée en comité privé, soirée d'anniversaire, banquet de noces et séances enfantines. En costume d'apparat, la face rieuse ou les gestes appliqués, ils transpirent d'une enfance retrouvée. Si l'inspecteur central honoraire du cadastre de Saint-Jean-de-Ruelle, Manuel Gongora, expert en anneaux chinois, reste des plus austères, tenue de ville et la paupière inquiète, l'entrepreneur de peinture Georges Papin, dit Géo Maxime, est fier des quatre boules tenues entre les doigts de sa main. L'électricien en automobile de Lannion, Léon Kefelou, alias Chris Mida, la baguette brandie, est émerveillé d'exhiber sa colombe. Henri Rimbaud déploie son jeu de cartes avec une mine gourmande. Il est pâtissier-confiseur à Paris. L'un des plus facétieux est le chirurgien-dentiste Max Tassel, dit Xam, bien de profil pour montrer sa cravate en lévitation. Le plus étonnant, Émile Delot, dont le visage baigne d'extase, comme transpercé d'une cinquantaine de cigarettes, à moins que ce ne soient les bâtonnets magiques listés dans ses spécialités.
Merci Christophe Beer, merci Guy Cos, merci Joseph Alterac d'avoir été ce soir les invités de Mauvais Genre. Rendez-vous dans 10 ans pour un livre sur quel sujet?
En tout cas, on va essayer de faire mieux la prochaine fois.
Pour les trois tomes d'un ouvrage dont le titre reste à préciser. En tout cas, il faut lire, relire, faire lire et faire relire. Rétrofiction, c'est chez Ancrage et Belles Lettres. Je signale également de Jacques Finet, L'univers des Goules chez Terre de Brume. Et à ne pas rater, quand on est amateur de rétrofiction, Rétrofutur, une contre-histoire des innovations énergétiques. C'est aux éditions Bûcher. Chastel, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Stéphane Touvenin, Séam Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnay, Jean-Luc Rivera, Jean-Pierre Dionnet, Christophe Beer et François Geolier vous remercient d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain où je recevrai en compagnie d'Antoine Guillot la dessinatrice américaine Émile Faris, auteur aux éditions Toussaint L'Ouverture de Les Monstres, moi j'aime ça. Bonne nuit à tous.